Piste 100% nature et découverte. Un homme tellement bio qu'il a de la mousse dans le dos. Quand vous le prenez dans vos bras, vous sentez tout de suite la force de ce conifère humain vous envahir et vous donner puissance et sagesse. En revanche, n'essayez pas d'étreindre Léa la rose. Elle est trop délicate. Ici, d'aventure, vous vous y risquiez. Ses épines vous transpercerez l'épiderme comme la quenouille qui harponna le doigt de cette idiote de Belle au bois dormant. Sinon, ce matin, à 8h20, nos deux naturopathes recevront Dominique David et l'exquise Chloé Morin pour parler milkshake saveur papaye et orgelet.
Merci Daniel Morin. Bonjour Nicolas Demorand, Elia Salamé.
Bonjour Mathilde Munoz.
Bonjour à tous.
France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, dernier conseil des ministres de Jean Castex aujourd'hui. Le gouvernement va changer en attendant les législatives de juin. On voit ça, Anaïs, après les autres titres.
Le secrétaire général de l'ONU sur les possibles lieux des crimes de guerre russes en Ukraine, à Boutcha, où les psychologues épaulent les victimes. Le policier auteur des coups de feu au Pont-Neuf à Paris, mis en examen. La légitime défense n'est pas retenue à ce stade. Le syndicat Alliance s'insurge. Et puis l'OM en Hollande, dernier club français en ligue, en lice dans une Coupe d'Europe de football.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Il est la voix singulière, un peu à part de la France insoumise. S'il salue la large victoire de Jean-Luc Mélenchon, il se demande pourquoi la gauche a perdu les classes populaires encore dans cette élection. Que pense-t-il de la tentative d'union de la gauche? Le député insoumis François Ruffin sera avec nous à 7h05.
A tout à l'heure, Léa. À 8h20, après l'élection présidentielle, la France est-elle prise d'une grande fatigue démocratique? Faut-il aérer nos institutions, les réformer? On posera la question à trois invités tout à l'heure. Dominique Régnier, David Jazz et Chloé Morin. Pour vous, le standard est ouvert dès maintenant. Allez-y, 01 45 24 7000.
Il revendiquait de ne pas prendre la lumière et c'est pourtant dans un lieu inhabituel, sous les dorures des 1000 mètres carrés de la salle des fêtes de l'Élysée, que Jean Castex assista à son premier conseil des ministres. C'était en été. Aujourd'hui, le Premier ministre siège pour la dernière fois en face d'Emmanuel Macron. Il va s'en aller dans les jours qui viennent. L'ancien maire Les Républicains de Prades aura passé près de 2 ans à Matignon. Il aura été un atout dans la réélection du président. Et Maxence Lambrecq, il a su se démarquer de son prédécesseur Édouard Philippe.
À son arrivée,
cher Édouard,
les députés le regardent de haut. Il s'impose en débarquant le secrétaire général du gouvernement, trop techno, et en labourant le terrain, lui, l'amoureux des trains.
Ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre.
341 déplacements en 660 jours, un record, pas un samedi sans visite, et à une période, pas un jeudi sans point presse.
À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français.
L'épidémie l'accapare, l'obsède, il prend la foudre, protège le président.
Les commerces ne les fermaient pas, les stations de ski ne les fermaient pas, les universités, rouvrez-les. J'ai entendu ça depuis des semaines et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous.
Ah, faut se méfier des gens du Sud qui ont l'accent, souligne un de ses amis. Il ne paye pas de mine et avance ainsi. Il a déminé dans l'ombre des tas de dossiers son regret n'avoir mis un pied ni en Corse ni en Outre-mer.
Moi, je veux lui dire le bonheur qui est le mien de l'avoir à mes côtés.
Entre eux, chaque semaine, de vrais tête-à-tête sans collaborateur, une complémentarité évidente.
Vous savez la concurrence quand même.
Ce mois-ci, des tracts à la main, Jean Castex croise un communiste.
Eh bien, les meilleurs gagneront.
Exactement, il faut aller au contact déjà.
Au contact, bien meilleur que derrière un pupitre, Jean Castex n'a jamais fait d'ombre à Emmanuel Macron et va quitter Matignon sans aucune prétention.
La nomination du nouveau Premier ministre est prévue d'ici au 13 mai. En attendant le gouvernement qui sortira des législatives, il pourra aller des sociaux-démocrates jusqu'à la droite libérale avec les centristes, dit ce matin dans Midi Libre le président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand qui lance un appel, je cite, aux femmes et aux hommes de gauche. Ceux qui lorgnent vers la France insoumise vont s'enferrer dans des alliances extrémistes, dit-il. Car justement, premier contact historique hier entre la France insoumise et le PS et rencontre positive, sans blocage insurmontable d'après les deux parties. Jean-Luc Mélenchon dans l'Humanité aujourd'hui propose que chacun ait un groupe parlementaire sans passer par l'Union de la gauche. Et puis à l'extrême droite, enfin, Jordan Bardella lance aujourd'hui la campagne du Rassemblement National à Fréjus. On ne sait toujours pas ce matin qui a commis ces actes de malveillance sans précédent sur le réseau français de fibre optique. Des câbles longue distance d'Internet sectionnés volontairement à plusieurs endroits et à peu près au même moment. L'enquête est en cours, des dispositifs de surveillance sont mis en place. La Fédération des industriels des infrastructures numériques demande, elle, des sanctions plus fortes. Philippe Legrand en est son président.
Ce sont des réseaux qui sauvent des vies, mais a fortiori, quand les réseaux sont absents, ils peuvent mettre en péril la santé, voire même la vie de nos concitoyens. Les interventions des services d'urgence pourraient être pénalisées. C'est très grave. Ces actes malveillants ne sont pas que la privation d'Internet pour un ensemble de foyers ou d'entreprises, c'est aussi la mise en danger d'autrui. Là, on parle d'un acte à grande ampleur, mais les petits actes malveillants ont tendance à se reproduire de nombreuses fois sur nos réseaux. Il est temps que cela cesse, donc il faut des moyens coercitifs, mieux sanctionnés, peut-être mieux tracer également les incidents de ce type.
Philippe Legrand, président d'Infranum avec Béatrice Duguay. Plus de 9700 pannes ont été recensées sur l'Internet fixe hier, c'est-à-dire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, le secrétaire général de l'ONU dans la banlieue de Kiev aujourd'hui.
Pour se rendre compte lui-même des horreurs des massacres, Antonio Guterres est à Boutcha, Irpin et Borodianka, là où des dizaines de cadavres portant des vêtements civils ont été découverts après le départ des troupes russes. À la morgue de Boutcha, les familles défilent encore tous les jours pour y reconnaître des proches. Elles sont épaulées et prises en charge par une psychologue que nos envoyés spéciaux Fabien Gosset et Farida Noir ont rencontré.
Elle est là du matin au soir. La morgue de Boutcha est devenue son nouveau bureau. Réconforter une mère qui a vu mourir son fils abattu sous ses yeux, une veuve, c'est le quotidien d'Anna Dolin, psychologue.
Beaucoup de gens ont été enterrés dans des cours, un peu partout. Ces corps sont en train d'être exhumés, il y en a vraiment beaucoup. Parfois, les familles viennent 3, 4, 5 fois pour identifier leurs proches et c'est très traumatisant.
Des familles arrivent sidérées, ravagées.
Le premier jour, c'était très difficile. Les familles ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voulaient savoir pourquoi le corps doit être exhumé, examiné si longtemps. Je leur répondais parce que ce sont des crimes de guerre et ils doivent les répertorier pour être punis. Maintenant, les gens ont compris la procédure et ils acceptent. Pour eux, il y aura une deuxième vague émotionnelle.
Anna Dolin a de l'expérience dans les stress post-traumatiques. La révolution de Maïdan, le Donbass il y a 8 ans, mais ce conflit est différent de 2014. Cette fois, la volonté est d'anéantir.
Ce n'est pas la guerre. Pour moi, c'est un génocide. Les Russes n'arrivent pas à dominer les militaires ukrainiens parce qu'ils sont faibles intellectuellement. Ils n'ont pas d'émotion, alors ils ne peuvent dominer que par la violence. Ils compensent leur infériorité en violent et en tuant.
Mais la parole ne suffit pas à réconforter les familles. Beaucoup, confie la psychologue, me réclament des calmants pour ne pas sombrer.
Farida Noir à Boutcha avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Hier, Antonio Guterres à Moscou chez Vladimir Poutine a plaidé pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais, alors que le Donbass est sous le déluge de feux russes. À Mariupol, nouvel appel à l'aide désespéré des soldats retranchés dans le complexe d'Azovstal. Il y a 600 blessés et des centaines de civils. Sur le plan économique, l'Europe affiche son unité et sa solidarité après l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie. Les ministres européens de l'énergie se retrouvent en session extraordinaire lundi prochain.
Il est 7h08 dans l'affaire du Pont-Neuf. Anaïs, les investigations vont encore se poursuivre.
Mais pour l'instant, la légitime défense n'est pas retenue. Le policier qui a tiré sur une voiture dimanche soir en plein cœur de Paris avec un fusil d'assaut est mis en examen pour violence volontaire. Deux occupants de la voiture sont morts, tués par ces balles. Le gardien de la paix de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de paraître à Paris ni de parler à ses collègues pendant 6 mois. Le syndicat Alliance a aussitôt contesté, je cite, cette décision inadmissible des juges. Écoutez son délégué général Stanislas Godon.
Le policier là qui est passible des assises et quand même de 30 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas rien, alors qu'il a fait feu d'abord pour protéger à la fois son intégrité physique et l'intégrité physique de ses collègues qui étaient sur le terrain. Je rappelle que parfois il y a des collègues qui meurent également lorsque on leur fonce dessus délibérément, et donc l'usage des armes dans ce cadre-là est pour nous dans le cadre réglementaire. Nous espérons que toute la lumière soit faite pour, évidemment, que ce collègue-là ne se retrouve pas aux assises.
Stanislas Godon du syndicat Alliance. L'autre syndicat, unité SGP Police, prend acte de la mise en examen. L'enquête se poursuit, notamment sur la question de la légitime défense. On fait le point à 8h. À Évry, ce matin, témoignage capital et très attendu de l'ex-patron de la SNCF, Guillaume Pépi, témoigne sur la catastrophe de Brétigny-sur-Orge. 7 morts dans le déraillement du Paris-Limoges. L'accusation pointe des défauts de maintenance des voies, et Guillaume Pépi dirigeait à l'époque le groupe Mathilde Vinceneuve.
Le jour même de la catastrophe, la voix tordue par l'émotion, Guillaume Pépi l'assure, la SNCF est responsable de l'accident. Mais face au juge, le groupe conteste tout défaut de maintenance et affirme que le déraillement était imprévisible. Un double langage dénonce certaines victimes. Un an après la catastrophe, Guillaume Pépi promet aussi une totale transparence. « Notre priorité absolue, c'est la manifestation de la vérité », dit-il en conférence de presse. Un discours fragilisé au cours de l'instruction quand les enquêteurs doutent de l'authenticité des documents fournis par la SNCF. Une enquête est même ouverte pour altération et destruction de preuves, en vain. La justice soupçonne aussi la SNCF d'avoir suborné des témoins. Des écoutes téléphoniques montrent que les cheminots étaient briefés en interne avant d'être entendus par les policiers ou les magistrats. Je t'invite à ne rien apporter, il ne faut pas être proactif avec eux, il faut les laisser chercher un peu. Voilà ce que conseillait une juriste de la SNCF à un cadre.
Le témoignage de Guillaume Pépi est à partir de 9h30 ce matin, le procès dure jusqu'au 17 juin. Faut-il vraiment acheter une perceuse quand on ne va s'en servir que quelques fois par an? Et pourquoi pas plutôt l'emprunter? C'est le concept de la bibliothèque d'objets, qui n'a de bibliothèque que le nom, car ici, pas de livres, mais des machines à raclette ou des tondeuses à gazon. L'Observatoire du partage à Montreuil, près de Paris, l'a ouverte au début du mois, inspirée par des expériences à l'étranger qui font du bien au portefeuille et à la planète, Emma Steven.
Jeune actif, Marco ne s'imagine pas acheter du matériel uniquement pour faire deux trous dans le mur de son appartement.
Bonjour.
Il avait presque oublié qu'il l'avait emprunté.
Je viens rendre ma perceuse, enfin la perceuse que j'ai empruntée.
C'était accroché une étagère.
Une étagère pour les chaussures et les porte-manteaux, quoi.
Depuis son ouverture, cette bibliothèque a déjà prêté une trentaine d'objets, surtout à des habitants du quartier comme Joël, qui se laisserait bien lui aussi tenter.
On est en train de nous parler pas mal là, qu'il faut recycler, qu'il faut éviter de gaspiller. Mais je pense que dans cette idée-là, c'est plutôt pas mal de se dire que des objets peuvent servir aux uns et aux autres. On n'est pas obligé d'acheter un marteau piqueur, on en a besoin pour une heure.
Sur les étagères, près de 250 objets peuvent être loués pour 5 à 10 euros la semaine. Des objets collectés dans une démarche écologique, selon Charlotte Cosla, la responsable.
On a à peu près 80% de notre stock, c'est des habitants qui sont venus nous déposer les objets dont ils ne se servaient plus.
La bibliothèque propose aussi de venir réparer ces objets. Sylvain Mustaki, le président de l'association qui gère le site.
Le fait de pouvoir utiliser les services d'un endroit comme la Baume, eh ben c'est une façon de dépenser un petit peu moins d'argent et d'être un petit peu plus à l'aise financièrement.
Selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation face à la hausse des prix et pour préserver la planète, 80% des Français affirment privilégier l'usage à la possession d'un objet.
Liverpool en ballottage favorable. Les Anglais se sont imposés 2-0 contre Villarreal hier, demi-finale allée de la Ligue des champions de football. Mais ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui entre en scène. Dernier club français dans une coupe européenne, certes moins prestigieuse. C'est la Ligue Europa Conférence. L'OM en pleine réussite, mais attention à l'adversaire de ce soir, le Feyenoord, club historique porté par tout Rotterdam. Reportage de Philippe Randé.
Tout près des docks, dans une rue piétonne, lorsque Marc voit le micro d'une radio française, ce fan de Feyenoord depuis plus de 50 ans se retrousse les manches.
Ne parle pas, travaille comme on travaille au port, c'est ça l'âme de Feyenoord. Regardez, quand je vous en parle, j'ai les poils des bras qui se hérissent. On a un dicton à Hollande qui dit « À Rotterdam, on fabrique l'argent et à Amsterdam, il le distribue ».
Et Marc de poursuivre, comme Marseille, nous sommes une ville pauvre, un point commun parmi d'autres. Comme l'OM, Feyenoord a gagné la première Ligue des champions de son pays, c'était en 1970. Comme l'OM, Feyenoord est le dernier club de son pays en Coupe d'Europe cette année. Feyenoord qui a un public passionné qui se retrouve dans un stade dont le surnom est De Kuip, la baignoire. Laurent ne raterait le match de ce soir sous aucun prétexte.
Vous venez ce soir au stade? Bon, vous verrez, ce sera dingue. Il y aura des fumigènes et des feux d'artifice, même si c'est interdit. Je pense que les Marseillais vont être choqués. Mais c'est difficile de vous expliquer. C'est un sentiment, c'est comme aimer son enfant.
Et quand on demande à Laurent si cette nouvelle Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, est une coupe au rabais, il sourit avant de conclure. Vous verrez bien ce soir.
Et ce soir, c'est le match aller aux Pays-Bas. 21h, retour dans une semaine au Vélodrome.
Anaïs Feugat, merci. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui en Ukraine avec les exilés de Marioupol.